Merci pour la lecture. Je vous invite à garder ce texte ouvert sous les yeux. C'est le texte qu'on va méditer ensemble. On a commencé dimanche dernier l'étude de cette lettre de Paul aux Philippiens. C'est Adrien qui avait prêché pour nous. Et on continue donc dimanche après dimanche jusqu'à la fin de cette lettre de voir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cela. C'est un passage qui m'est très cher. Je suis heureux de pouvoir le méditer avec vous, des vérités très précieuses et qui nous pose la question de nous intéresser à savoir ce qu'est la vie chrétienne normale. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé cela. C'est quoi la vie chrétienne normale? À quoi ça ressemble? Comment est-ce qu'on devrait vivre en tant que chrétien? Et je crois que c'est une question pertinente en particulier parce qu'il y a le danger aujourd'hui de croire que la vie chrétienne normale, c'est simplement goûter le christianisme du bout des lèvres. Aller à l'église tous les dimanches, mais seulement quand ça m'arrange. Voir les autres frères et sœurs de l'Église, mais seulement ceux qui sont faciles à supporter. Avoir une vie bien remplie, mon travail, ma famille, mes loisirs, ma carrière et mon bien-être, et puis caser le christianisme dans les trous qui restent. Ajouter la foi chrétienne à ma vie qui est déjà bien satisfaisante, comme une activité en plus, un hobby parmi les autres que je mets de côté quand ça ne m'arrange plus. Si c'est ça notre vision de la vie chrétienne, le passage d'aujourd'hui va nous bousculer un petit peu. Ce passage traite de la fondation de nos motivations, de nos ambitions dans la vie, de ce qui gouverne notre vie, de nos aspirations, de ce qui motive nos décisions. Comme on le verra, c'est tout à fait normal et approprié d'avoir un travail, une famille, une maison, des loisirs. Mais on va voir que ces choses doivent être motivées, gouvernées par une ambition plus grande. La vie chrétienne normale, c'est mettre l'Évangile avant tout. L'Évangile à la première place. C'est dire avec Paul, comme Jonathan l'a déjà mentionné dans la présidence, au verset 21, « Christ est ma vie. Christ est ma vie. » Et c'est vivre toute sa vie à la lumière de cette réalité. Dans ce passage, on va voir que Paul a une seule ambition qui dirige toute sa vie, qui dirige tous ses choix. On va voir que Paul est un peu en fait comme un athlète de haut niveau. Vous savez, les athlètes de haut niveau qui se préparent par exemple pour les Jeux Olympiques, ils ont un seul objectif, un seul but, et ils vivent toute leur vie à la lumière de cet objectif, à la lumière de ce but, avec cet objectif par exemple de courir ce 400 mètres aux Jeux Olympiques, en 2024, à Paris. Ça, c'est leur objectif. Et toute leur vie, leur gestion du temps, ce qu'ils vont dépenser, ce qu'ils vont faire, là où ils vont habiter, toutes ces choses-là vont être dirigées par cet objectif plus grand. On va voir dans ce passage que Paul est comme un athlète de haut niveau, qui vit pour Christ toute sa vie, et que la vie chrétienne normale, c'est la même chose. Alors, à quoi ça ressemble en plus de détails? Vous avez le plan dans le feuillet qui vous a été donné, trois aspects de la vie chrétienne normale qui sont décrits dans ces versets. Premièrement, se réjouir des progrès de l'Évangile en tout temps. La vie chrétienne normale, c'est se réjouir des progrès de l'Évangile en tout temps. Il y avait un lien fort qui existait entre Paul et les Philippiens. Adrien l'a expliqué la semaine dernière que Paul avait implanté cette église dans la ville de Philippe. Il gardait un lien très proche avec ces jeunes chrétiens qui le soutenaient financièrement, dans la prière aussi probablement, moralement. Il y avait vraiment un lien étroit entre les deux. On voit d'ailleurs dans le verset 8 que Paul s'adresse à ces Philippiens en disant « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. » Donc un lien très fort qui existe. Mais on sait aussi que quand Paul écrit cette lettre, il est en prison. Il est dans les chaînes, comme il le dit. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Les Philippiens ne savaient pas ce qui lui est arrivé, mais ils savaient qu'il y avait des choses difficiles qui étaient arrivées à Paul, qu'il avait été arrêté pour sa foi, mis en prison, et même, comme on va le voir plus tard, qu'il est peut-être face à la mort. Donc Paul est dans une situation difficile. Il y a un lien très fort qui existe avec ces Philippiens, et donc on peut imaginer que cette église de Philippe, ils sont vraiment dans l'angoisse. Ils veulent des nouvelles de Paul. Ils veulent savoir, mais est-ce que Paul est toujours en vie? Est-ce que Paul va bien? Est-ce que Paul continue à confesser Jésus comme sauveur et seigneur? Est-ce qu'on peut aider Paul de différentes manières? Un peu comme quand vous apprenez qu'un de vos amis est à l'hôpital sans avoir plus de détails. Vous attendez un SMS, vous attendez la notification, le ding, et vous courez sur votre téléphone pour l'ouvrir, pour savoir comment est-ce qu'il va. C'est un peu la même chose ici, avec Paul et les Philippiens. Mais la grande surprise, c'est le verset 12, c'est la manière dont Paul réagit. Parce que Paul a commencé sa lettre avec l'introduction qu'on a vue la semaine passée, qui est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Il introduit sa lettre, il prie pour ceux à qui il s'adresse. Et là, il commence, on pourrait dire, avec le passage d'aujourd'hui, vraiment le contenu de ce qu'il veut dire. Et voilà comment il commence. Verset 12. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Paul est en prison. Il a eu toutes ces situations difficiles qui lui sont arrivées. Les Philippiens sont dans l'angoisse de savoir comment il va. Il leur dit, mais ne vous inquiétez pas, l'Évangile a progressé. C'est génial. C'est ça le plus important. Quand Paul parle de l'Évangile ici, ça vaut la peine de préciser qu'il parle de cette bonne nouvelle qui est au cœur de la foi chrétienne. Le pardon que Dieu donne à tous ceux qui se détournent de leurs péchés pour se confier en Jésus. À tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont rejeté Dieu par leur manière d'agir, leur manière de vivre, leurs paroles, leurs actes, leurs pensées, tous ceux qui réalisent qu'ils sont face à un jugement. Le jugement par lequel Dieu doit nous condamner de manière tout à fait juste en raison de notre rébellion envers lui. Un Dieu qui ne peut pas laisser le mal impuni, mais qui exerce sa colère, sa juste réaction face au mal des êtres humains. Mais un Dieu qui a envoyé Jésus, son Fils, pour vivre une vie parfaite, pour mourir sur la croix, et pour là manifester la bonne nouvelle de Jésus qui prend sur lui la punition que l'on devrait subir, qui prend le jugement à notre place, pour qu'en lui, on soit pardonné. La bonne nouvelle du pardon qui se trouve lorsque l'on place sa confiance en Jésus, la réconciliation avec Dieu pour tous ceux qui croient. Ça, c'est l'Évangile. Le message que Paul proclame, et c'est un message qui doit être partagé, que les gens doivent entendre, dans lequel les gens doivent croire, un message qui doit se répandre. Et Paul dit ici, mais les amis, ne vous inquiétez pas, même si c'est difficile ce qui m'est arrivé a permis à ce que cet évangile, cette bonne nouvelle, soit entendue, soit proclamée. Et c'est ça le plus important. Il y a deux manières par lesquelles l'évangile a progressé dans ces versets. D'abord, on voit au verset 13, Paul dit « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. » C'est difficile de savoir précisément ce dont il s'agit quand Paul parle du prétoire ici, mais il s'agit probablement de l'entourage de là où il était en prison. En tout cas, ces gens-là qui étaient autour de Paul en prison ont entendu parler de l'Évangile. Il y a des gens qui ne connaissaient pas l'Évangile, qui n'étaient pas chrétiens, qui ont entendu parler de la bonne nouvelle de la foi chrétienne à cause de l'emprisonnement de Paul. Paul, ce n'était pas un prisonnier comme les autres. Il ne passait pas tout son temps à se plaindre qu'il était innocent, que la nourriture n'était pas bonne, qu'il voulait plus de lumière dans la cellule ou d'autres choses. Mais Paul, il parlait son temps à parler de Jésus. À dire, mais vous savez, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que Jésus est Seigneur. Parce qu'il y a le pardon des péchés en lui. Parce que l'évangile est vrai, et vous devez croire dans cet évangile. Paul, il ne pouvait pas se taire, on ne pouvait pas le faire se taire. Donc, l'emprisonnement de Paul a permis à de nombreuses personnes d'entendre parler de Jésus. Et donc, Paul se réjouit. Mais il y a une autre manière par laquelle l'évangile a progressé dans ces versets. Au verset 14, on voit que l'attitude de Paul a motivé d'autres chrétiens à faire comme lui. Il écrit, « La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus d'hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Certains avaient vu le courage de Paul, que Paul restait fidèle même en prison. Ils s'étaient dit, mais nous aussi, on peut vivre comme ça. Nous aussi, on peut parler de Jésus autour de nous. Ça les a encouragés à avoir plus de courage pour parler de Jésus autour d'eux. Donc Paul voit sa situation, il voit l'emprisonnement, il voit les circonstances difficiles, mais il voit plus loin que ça. L'emprisonnement a permis que des gens qui ne connaissaient pas Jésus entendent parler de Jésus. Et que des gens qui connaissent Jésus parlent encore plus de Jésus. Donc dans les deux points, Paul dit « c'est super, pousse en l'air, c'est génial, je me réjouis ». Et ça nous montre que le but de Paul, sa priorité, c'est pas son confort, c'est pas son bien-être, c'est pas d'avoir une petite vie tranquille qui coûte pas trop, une vie chrétienne qui coûte pas trop. Mais la priorité de Paul, c'est que l'évangile progresse, peu importe ce que ça entraîne pour lui. C'est comme ça qu'il évalue les circonstances de sa vie. L'évangile a progressé, super, je me réjouis. Je me souviens d'une sœur assez jeune qui avait un cancer et ça impliquait pas mal de choses assez difficiles pour elle. Et comme son cas était un cas d'école, on lui a demandé si elle était d'accord de parler de sa situation dans un amphithéâtre rempli d'étudiants. Et j'étais frappé de sa réaction. Ce n'était pas de se plaindre de sa situation, de voir toutes les circonstances négatives de sa vie, mais elle disait plutôt « c'est une super occasion de témoigner de ma foi, super, j'y vais ». Elle avait saisi cette opportunité pour parler de l'espérance qu'elle avait en Jésus. Elle ne voyait pas les problèmes, la situation difficile, mais l'opportunité pour l'évangile. Et c'est comme ça que Paul réagit. Et ça nous révèle qu'il a les bonnes priorités. On voit également cela dans la suite des versets, les versets 15 à 18. On voit que dans ceux qui annoncent l'évangile, il y a deux groupes de personnes que Paul décrit. Certains, il est vrai, il écrit au verset 15, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Donc il y a deux groupes de personnes. Et ces deux groupes de personnes, ils ont une chose en commun et une différence. Une chose où ils sont pareils et une chose où ils sont différents. La chose que ces deux groupes ont en commun, c'est que tous les deux, ils proclament Christ. Ils annoncent le vrai évangile, le seul évangile, l'évangile qui sauve. Il ne s'agit pas ici de faux enseignants. Il dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ. Donc c'est le vrai évangile qui est annoncé. Les deux groupes annoncent l'évangile. Mais ce qu'ils ont de différent, ce qui les différencie, c'est leur motivation. Les uns font ça avec de bonnes intentions, mais d'autres font ça avec de mauvaises intentions, avec un esprit de rivalité. Ils veulent augmenter les souffrances de Paul, il est dit. À verset 17, « Cela annonce le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. » On ne sait pas exactement pourquoi ils faisaient ça, mais ils étaient probablement contents que Paul soit en prison. Ils se servaient de ça comme un argument pour dire « Ben voilà, vous voyez, Paul, il n'a pas bien fait les choses. » Et donc ils annonçaient l'évangile, mais avec des mauvaises motivations, pour augmenter les souffrances de Paul. Mais ce qui est surprenant, là encore, c'est de voir la réaction de Paul. Au verset 18, est-ce qu'il se plaint? Est-ce qu'il pointe du doigt ces personnes? Est-ce qu'il appelle les gens à avoir pitié de lui? Non, verset 18, qu'importe? Qu'importe? De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Paul se réjouit parce que le vrai évangile est annoncé. Paul ici n'est pas en train de se réjouir de leurs mauvaises intentions et il n'est pas en train de se réjouir parce qu'ils annonceraient un faux évangile. Donc on n'est pas en train de dire ici « Ah, on se réjouit même si c'est un demi-Christ qui est annoncé ou un évangile dilué ». Non, on ne se réjouit pas si c'est un faux évangile qui est annoncé. Le message du salut ne doit pas être changé. Paul, dans d'autres passages, va avoir des propos très forts contre les faux enseignants, en s'adressant par exemple aux Galates ou à d'autres personnes. Mais ici, il se réjouit parce que c'est le vrai évangile qui est annoncé. Et c'est ça, sa priorité. C'est ça qui est le plus important pour lui, que Christ soit annoncé, peu importe ce que ça lui coûte. Peu importe les souffrances qui sont augmentées pour lui. C'est comme on a vu, il a une seule priorité, une seule ambition, pas sa réputation, pas son bien-être, pas son confort, mais que l'évangile progresse, que Christ soit proclamé. La vie chrétienne normale, c'est se réjouir des progrès de l'évangile en tout temps, même quand ça nous coûte. Je parlais la semaine dernière avec le responsable d'une organisation missionnaire dans un autre pays, et il me parlait d'une division qui avait eu lieu récemment au sein de cette organisation. Une personne en particulier qui avait une attitude particulièrement divisive et qui continuait à faire des choses, qui continuait à partager l'évangile, mais avec vraiment de mauvaises intentions et pour faire souffrir les autres et en créant plein de problèmes. Mais ce responsable me disait avec humilité et franchise que malgré tout ce qui pesait en ce moment sur lui, Il voulait avoir l'attitude de Paul dans Philippiens 1, qui se réjouit de ce que Christ est annoncé. Même si c'est pour de mauvaises intentions, même si ça complique son travail, complique son œuvre. Et j'ai trouvé que c'était une bonne attitude, une bonne compréhension de ce passage. On se réjouit de ce que l'évangile, le vrai évangile, est annoncé, même si ça va augmenter nos souffrances. Mais il faut dire qu'on pourra se réjouir seulement si l'évangile est à la première place de notre vie, avant notre propre bien-être. Si Paul peut se réjouir ici, c'est parce qu'il a les priorités au bon endroit. En fait, sa joie nous montre qu'il a les priorités bien placées, que le partage de l'évangile compte plus pour lui que son propre bien-être, que sa propre réputation. Est-ce que c'est le cas aussi pour nous ? Est-ce qu'on peut se réjouir que l'évangile est annoncé même quand ce n'est pas nous qui l'annonçons ? Même quand ce n'est pas nous qui avons eu cette discussion super encourageante par rapport à l'évangile ? Est-ce qu'on peut s'en réjouir que l'évangile soit annoncé même si on n'a pas été impliqué ? Est-ce qu'on se réjouirait si l'église d'Etterbeek ou de Louvain-la-Neuve ou une autre église qui prêche l'évangile grandissait, devenait même plus grande que nous et que nous, on venait à diminuer en nombre ? Est-ce qu'on se réjouirait que l'évangile soit annoncé, que l'évangile progresse, même si ça ne nous concerne pas nous directement ? Ou est-ce qu'on aurait un peu d'amertume, de jalousie, d'envie ? C'est seulement si l'évangile est à la première place dans notre vie qu'on pourra se réjouir de ces choses. Dans le passage de la semaine dernière, Adrien parlait du privilège de participer au plus beau projet du monde, le partenariat dans l'évangile pour les progrès de l'évangile. Et peut-être qu'en écoutant le passage de la semaine dernière, vous êtes dit, mais c'est pas si beau que ça au final. Ça ne m'attire pas tant que ça par rapport au reste de ma vie qui m'apporte la joie, de ce qui me donne de l'adrénaline, de ce qui me fait lever le matin, participer au progrès de l'évangile, boah, c'est pas si impressionnant que ça. Ben, si c'est le cas, c'est peut-être qu'on a besoin de remettre l'évangile à la première place, comme ambition première de notre vie, comme but premier, d'avoir le progrès de l'évangile comme souhait le plus cher, réaliser que c'est ça qui compte le plus et que tous les objectifs humains pâlissent à la lumière de cela. Partager la bonne nouvelle du salut éternel pour que la destinée éternelle des êtres humains soit transformée. Se réjouir que cette nouvelle se répande dans le monde entier. La vie chrétienne normale, c'est avoir le progrès de l'évangile au centre de nos ambitions. C'est chercher à faire tout pour que notre vie serve l'avancement de l'évangile, d'une manière ou d'une autre. Et comme on l'a vu dans le passage dimanche passé, comme on le verra à nouveau dans cette lettre, ça ressemble à quelque chose de différent pour chacun. On ne fait pas tous la même chose, mais tous, on peut être impliqués. Tous, on peut être partenaires pour les progrès de l'évangile. Et c'est facile d'oublier cela et de mettre les progrès de l'évangile comme une note de bas de page de la vie chrétienne, comme un bonus réservé à certains. C'est facile de souhaiter uniquement un changement moral de la société, en souhaitant que la société autour de nous devienne de plus en plus chrétienne dans ses valeurs, de plus en plus favorable au christianisme dans son discours, en oubliant le besoin que l'évangile progresse, le besoin que le message de l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, soit annoncée, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, qui appelle les hommes et les femmes à se repentir avant qu'il soit trop tard, que ce message soit annoncé. Et c'est facile d'oublier le besoin que les hommes et les femmes croient en cet évangile pour recevoir le pardon de leurs péchés, une relation rétablie avec Dieu. C'est ça le plus grand besoin, avant tout. C'est ça qu'on veut voir autour de nous, c'est de ça qu'on veut se réjouir, c'est pour ça qu'on veut vivre. On a peut-être parfois besoin de lever un peu les yeux de notre nombril, de notre petite vie bien remplie, de nos activités effrénées, pour prendre le temps de regarder le monde et souhaiter que cet évangile progresse jusqu'aux extrémités de la terre, pour être des chrétiens dont le cœur bat pour cela, et pour prendre le temps de s'arrêter et pour se réjouir que c'est le cas, se réjouir que l'évangile progresse. L'évangile n'est pas un message statique, mais dynamique, qui progresse encore aujourd'hui dans le monde. Rien que cette semaine, j'avais des nouvelles de deux amis, l'un d'entre eux qui est en train d'implanter une église parmi un peuple non latin, c'est-à-dire un peuple qui n'a jamais entendu l'évangile, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et de qui est Jésus, en Afrique du Nord, et il me parlait des nouvelles de comment c'était encourageant le travail là-bas, et comment il pouvait parler de Jésus à des gens qui n'avaient jamais entendu parler de lui. Et les autres nouvelles, j'ai reçu d'un ami qui a été annoncé l'évangile à un autre peuple non latin en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a plusieurs années, qui a été vivre au sein de ce peuple, apprendre la langue, traduire la Bible, annoncer l'évangile, et qui a vu là plusieurs personnes se convertir, croire en Jésus pour le pardon de leurs péchés. Et maintenant, il revenait plusieurs années plus tard, alors que cette église était indépendante et elle-même en train d'implanter d'autres églises dans la région. On peut se réjouir de cela. On peut se réjouir que l'évangile progresse dans le monde. C'est ça le plus important. Donc la vie chrétienne normale, c'est se réjouir des progrès de l'évangile en tout temps. Ne vous inquiétez pas, le premier point était le plus long. On va avancer plus rapidement sur les deux autres points. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte sur la vie chrétienne normale, c'est que ça revient à glorifier Jésus, peu importe la situation. Glorifier Jésus, peu importe la situation. Paul est dans une situation pas facile. Il a été arrêté, il est en prison, et il a deux issues qui sont face à lui. La mort ou la vie. Soit il va être mis à mort pour sa foi, soit il va être relâché et continuer à vivre. On pourrait se dire, mais comment est-ce que Paul réagit? Est-ce qu'il est dans l'angoisse? Est-ce qu'il est dans la crainte? Est-ce qu'il est dans le désespoir? Non, ce n'est pas comme ça qu'il réagit. Regardez le verset 20. Paul dit, « Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Le souhait de Paul, son espérance, c'est qu'il ait honte de rien, c'est qu'il n'ait pas à rougir par sa manière d'agir, soit dans la vie, soit dans la mort. C'est qu'il reste fidèle à Jésus jusqu'au bout. Et son désir le plus cher, c'est que Christ soit glorifié, que ce soit par sa mort ou que ce soit par sa vie, qu'il puisse honorer Jésus. Et là encore, on voit sa priorité, peu importe ce que ça lui coûte, que Jésus soit glorifié. L'évangile est à la première place de sa vie. Donc il ne met pas trop d'importance dans les deux issues qui sont face à lui, parce qu'il sait que dans les deux cas, Christ sera glorifié. L'évangile va progresser. Si Paul est relâché et qu'il continue à vivre, Christ sera glorifié parce que Paul va continuer à faire ce qu'il a toujours fait, parler de Jésus aux autres, à le faire autour de lui et à faire progresser l'évangile. Et si Paul meurt, Christ sera aussi glorifié. Et ça peut nous surprendre. Comment est-ce que Jésus peut être glorifié par la mort de ceux qui l'annoncent ? Ça me paraît un peu fort de dire ça. Comment est-ce que Jésus peut être glorifié par la mort de Paul ou la mort de ceux qui l'annoncent ? Bien, toute l'histoire de l'Église chrétienne montre que c'est le cas. Depuis le début de l'histoire chrétienne, les chrétiens ont connu le martyr, ont été mis à mort pour leur foi. Et on parle encore aujourd'hui dans l'Église des chrétiens persécutés qui souffrent parce qu'ils croient en Jésus. Et en regardant aux vies de ces millions d'hommes et de femmes, on voit qu'ils ont glorifié Jésus, même dans la mort. Ils sont restés fidèles à Jésus, au seul Seigneur, même face à la mort. Ils ont montré de manière publique, par leur exemple, que Jésus était plus précieux que tout, même plus précieux que la vie. Et en faisant ça, ils ont encouragé d'autres à vivre avec la même ambition, avec la même passion pour Jésus. Ils ont encouragé d'autres à annoncer Christ avec plus de hardiesse, comme on voit que c'était le cas pour Paul dans ces versets. C'est ce qui s'est passé avec Jim Elliot, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. C'était au XXe siècle, un jeune Américain qui est parti avec, ils étaient cinq en tout, jeunes, dans la vingtaine, ils étaient mariés, une bonne partie avait des enfants. Ils voulaient annoncer l'évangile à une tribu, au cas qui n'avait jamais entendu parler de Jésus, qui était totalement étrangère à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais ils avaient dans leur cœur quelque chose de plus fort. Il voulait dire avec Paul, Christ est ma vie, et annoncer Jésus à ces gens-là. Et lors d'une des premières approches qu'ils ont eues avec cette tribu, pas la première, mais une des premières, ils ont été tués, tous les cinq, le 8 janvier 1956. Le monde a décrit ça comme une tragédie, quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, quelque chose d'horrible, qui n'avait rien de bien. Mais si on regarde plus loin, on voit qu'ils avaient les bonnes priorités. Ils avaient l'évangile à la première place, quoi qu'il en coûte. Et on voit que surtout, ça a servi au progrès de l'évangile. non seulement ça a encouragé plein de jeunes dans cette période-là à s'engager comme missionnaires, à dire « mais nous aussi, on veut utiliser notre vie pour quelque chose qui compte, pour les progrès de l'Évangile, en partant, en allant dans ces pays. » Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Elisabeth, la femme de Jim Elliot, est retournée quelques années plus tard dans cette tribu avec la sœur d'un des gars, Nate Sands, qui était le pilote, qui était aussi décédé. La sœur est aussi retournée avec donc, la femme de Jim pour annoncer l'Évangile dans cette tribu. Et là, ils ont écouté. Et là, ils ont cru dans l'Évangile. Et là, plusieurs se sont convertis et sont devenus chrétiens. Ont trouvé en Jésus le pardon des péchés. Une église est née au sein de cette tribu. C'était un exemple extrême, mais voilà des personnes qui ont suivi le modèle de Paul, qui avaient les priorités bien placées, qui avaient compris que Jésus est plus précieux que tout, même que la vie, qui voulaient glorifier Jésus, quoi qu'il en coûte. Alors on se dit peut-être, mais comment c'est possible de vivre comme ça, de manière aussi radicale, de glorifier Jésus, peu importe la situation? C'est possible uniquement lorsque l'on est prêt à dire avec Paul ce qu'il dit dans le verset 21, qui est, comme Jonathan le disait, le cœur de notre passage. « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. La vie chrétienne normale, c'est pouvoir dire cela, que Christ est celui qui représente notre vie, que c'est pour lui qu'on vit avant toute autre chose. Et donc, que la mort est un gain. Alors ça peut être aussi, ça paraît fort de dire ça. Attends, comment est-ce qu'on peut dire que la mort est un gain? La mort est quelque chose de triste. Et c'est vrai, il y a une peur qui est normale liée à la mort, des souffrances et de tout ce que la mort entraîne. Comment Paul peut dire que la mort est un gain? Mais si Paul peut dire que la mort est un gain, c'est en raison de la première partie du verset. C'est parce que Christ est sa vie. Christ est sa vie. Donc, la mort est un gain. Parce que la mort, comme il le dira plus loin au verset 23, c'est simplement aller avec Christ, être avec Christ pour toujours, avec celui pour qui il a vécu pour toute sa vie. C'est largement mieux que tout. La mort est un gain parce qu'il ne perdra rien quand il mourra, ou en tout cas pas ce qu'il y a de plus important, Christ lui-même. Je me souviens d'une prédication il y a quelques années, j'étais jeune, bon, je suis toujours jeune j'espère, mais en tout cas j'étais adolescent, on peut dire plutôt, dans un camp de jeunes. Et c'était un pasteur du sud-ouest de la France qui prêchait sur ce verset-là. Et il nous disait à nous, les jeunes, les ados de l'époque, « Mais les amis, c'est seulement si Christ est ta vie que la mort pourra être un gain. Si tu vis pour autre chose que Christ, alors la mort ne sera pas un gain, mais la mort sera une perte. » Il avait utilisé plusieurs exemples à l'époque, c'est un exemple qui me marquait, il avait dit « Si les jeux vidéo sont ta vie, la mort sera un gain. Sera une perte, pardon. Pardon. Vous suivez au moins, j'ai vu les visages surpris. Si les jeux vidéo sont ta vie, la mort sera une perte. Parce que tu vas vivre toute ta vie pour cette chose-là, puis quand tu meurs, tu la perdras. » Et j'ai trouvé qu'il y avait tellement de sagesse dans ce qu'il a dit, et c'est vrai, c'est ce que l'on voit dans ce texte ici. Si le travail est notre vie, la mort sera une perte. Ce sera la perte de ce pour quoi on a vécu. Si la famille est notre vie, même si c'est important et même si c'est bon, et on y reviendra, la mort sera une perte. Si l'achat de cette maison, la popularité sur Instagram, ce projet dans la société, le sport, la santé, toutes ces choses-là sont notre vie, sont ce qui nous fait vibrer, alors la mort sera une perte. Parce qu'on va perdre ces choses, pour toujours. Mais si Christ est notre vie, alors la mort ne sera pas une perte, mais la mort sera un gain. Ce sera vivre avec Jésus pour toujours. Et si vous êtes ici et que vous découvrez la foi chrétienne, je vous encourage à découvrir cela, à creuser cela. Peut-être que ça n'a aucun sens pour vous tous qu'on partage ici. L'importance de la priorité de l'Évangile, l'importance de mettre Jésus à la première place. Et c'est normal que ça n'ait aucun sens, tant que vous n'avez pas compris combien Jésus est précieux. Combien l'Évangile est vrai, combien le pardon des péchés est nécessaire, important, et se trouve uniquement en Jésus. Tant qu'on n'a pas compris cela, tant qu'on n'a pas saisi ces choses, ça n'aura aucun sens de vivre pour Jésus. Mais quand on a compris ces choses, la seule chose logique à faire, c'est de dire avec Paul, « Christ est ma vie. C'est pour lui que je veux vivre. Et la mort est un gain. » On a tous des ambitions pour notre vie, et probablement des ambitions très différentes les uns des autres, des choses qui sont importantes pour nous, des choses qu'on voudrait avoir dans 5, 10 ou 15 ans, ou alors des choses qu'on ne voudrait surtout pas perdre dans 5, 10 ou 15 ans. Fonder une famille, être utile dans la société, la sécurité, la bonne santé, un diplôme, des endroits à visiter dans le monde, plein de bonnes choses qui ne sont pas mauvaises. Le but de ce passage, ce n'est pas de nous encourager à dénigrer ces choses ou à leur accorder aucune valeur. Mais ce passage nous appelle à avoir une autre ambition plus grande que celle-ci et à vivre à la lumière de cette ambition. Glorifier Jésus, peu importe ce que ça nous coûte. Alors, troisièmement, plus rapidement, la vie chrétienne normale implique de chercher le bien des autres avant le nôtre. Dans ces versets, on voit que Paul est face à un dilemme, à un choix difficile. Il est face à la vie ou à la mort et il dit que la mort, c'est de loin le meilleur, parce que c'est d'être avec Christ pour toujours. La vie, pour lui, ça va impliquer de rester avec les Philippiens, de continuer sa tâche, d'annoncer l'Évangile, d'œuvrer pour la croissance spirituelle des Philippiens. Et la mort, pour lui, ça va impliquer de s'en aller de ce monde, la fin des combats, la fin des souffrances, et vivre avec Jésus pour toujours. Et donc Paul est face à un choix difficile. C'est pas que c'est à lui de choisir, bien évidemment, il est conscient que Dieu est souverain, que c'est Dieu qui décide. Mais si on lui demandait de dire ce qu'il préfère entre les deux, son choix est vite fait. Au verset 23, il dit « Être avec Christ, c'est de beaucoup le meilleur, c'est largement mieux. » Et on le comprend. Et pourtant, on voit dans ces versets que Paul est prêt à renoncer à cela pour le bien spirituel des Philippiens. Regardez avec moi les versets 24 et 25. Il dit « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. » Si Paul regardait juste à lui, sans hésiter, il partirait aujourd'hui avec le Seigneur. Mais il dit « à cause de vous », en prenant en considération les autres, les Philippiens, leur bien spirituel, il dit qu'il vaut mieux qu'ils restent dans la chair, en vie sur terre, ici-bas, pour continuer à les faire progresser dans la foi. Paul renonce à ses propres intérêts pour les biens, le bien spirituel des autres, pour la croissance spirituelle des autres. Et là encore, on voit que Paul a les bonnes priorités. Ce qui compte le plus pour lui, ce n'est pas son propre bien-être, son propre confort, ni même son propre bien spirituel personnel, mais c'est le bien des autres. C'est de pouvoir servir les autres. On verra plus là-dessus au chapitre 2, mais on doit déjà dire que la vie chrétienne normale, c'est donc chercher le bien des autres avant le nôtre. Et malheureusement, on est tellement influencé par l'individualisme que ce n'est pas comme ça qu'on pense naturellement. On vit en pensant que tout est centré sur nous, en pensant que tout le monde nous doit quelque chose, que tout le monde doit s'intéresser à nous, que tout le monde doit se soucier de nous, nous dire bonjour, venir nous parler après le culte, et que s'ils ne le font pas, bah alors on se replie sur nous-mêmes et on est frustré. Ou alors quand on est confronté au choix d'une église, on se demande mais qu'est-ce qui me correspond le mieux ? Le style de musique, le style de prédication, les activités qui sont proposées ? Au lieu de penser mais dans quelle église est-ce que je vais pouvoir servir au mieux ? Aider les autres à grandir en Jésus. Chercher leur progrès et leur joie dans la foi, comme Paul le dit ici. Bien sûr, c'est important d'être dans une église où on peut être nourri spirituellement, où on peut grandir soi-même, c'est essentiel, c'est pas égoïste cela, et d'être une église dans laquelle on pourrait être engagé, impliqué, en phase avec la manière de fonctionner de l'église. Mais on ne doit pas oublier que la vie chrétienne est centrée sur les autres, elle est orientée vers les autres. Notre priorité, c'est le bien spirituel des autres. J'ai une responsabilité, nous avons tous une responsabilité envers les autres frères et sœurs dans l'Église, même si ça implique que je mette mes intérêts de côté. Plutôt que de venir à l'Église uniquement pour le bien que ça me fait, et si ça ne me fait pas du bien, ou si les choses ne sont pas faites comme je veux, alors je me mets en boule et je boude, et je rejette tout. Non, si on a les bonnes priorités, alors la vie d'Église sera bien différente. On verra qu'on s'engage les uns envers les autres, à s'aimer les uns les autres, à prendre soin les uns des autres, à s'aider à grandir les uns les autres en Jésus. Alors pour conclure, pour terminer notre temps ensemble et la méditation de ce texte, je pense qu'on vous a tous déjà posé cette fameuse question qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne sais pas ce que vous pensez de cette question, si vous trouvez ça facile de répondre à cette question. C'est souvent ce qu'on demande quand on apprend à connaître quelqu'un, une des premières questions après, quel est ton prénom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça a créé des opportunités de discussion. Je vais vous donner une manière de répondre à cette question qui créera encore plus de discussions. Pour vous, rien que pour vous. Si vous êtes chrétien et si ce qu'on a vu aujourd'hui est vrai pour vous, si vous pouvez dire avec Paul, Christ est ma vie. Alors la prochaine fois qu'on vous demande la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dites, je vis pour Jésus. Non, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vis pour Jésus. Ah oui, je fais d'autres choses aussi à côté, mais principalement, essentiellement, je vis pour Jésus. C'est ça le plus important. C'est ça que je fais à temps plein. C'est ça la vie chrétienne normale. C'est de vivre pour Jésus. C'est ça qu'on fait tous à temps plein. C'est pas goûter le christianisme du bout des lèvres, mais c'est mettre l'évangile avant tout. Et bien sûr, on a tous des occupations différentes. On a tous des responsabilités différentes. Nos semaines ressemblent tous à quelque chose de différent. Mais tous, on a le même objectif. Tous, on a la même ambition. Glorifier Jésus. Vivre pour les progrès de l'évangile. On est tous comme Paul, des athlètes de haut niveau qui vivent avec un seul but, une seule ambition, connaître Jésus et le faire connaître autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'autres ambitions ou d'autres projets, mais que tous ces projets doivent être dirigés par une ambition plus grande, plus glorieuse, plus éternelle, Christ et les progrès de l'Évangile. On veut tout vivre dans notre vie à la lumière de ça. On veut que ça soit comme un gouvernail qui dirige nos choix, qui dirige nos décisions. Et donc on va vivre notre travail, notre carrière, notre famille, notre vie sur cette terre en se demandant comment est-ce que je peux utiliser ces choses de la meilleure des manières pour que l'évangile progresse autour de moi. C'est ce qu'on fait de tout temps et ce que font encore aujourd'hui, y compris parmi nous, des businessmen, des employés de bureau, des étudiants, des retraités, des mères au foyer, des ingénieurs, et bien d'autres chrétiens qui réalisent qu'ils sont sur terre pour une raison, pour que l'évangile progresse, pour que Christ soit glorifié. Qui pourrait répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je vis à Jésus, je vis pour Jésus, à 100%. On verra plus là-dessus dans le passage la semaine prochaine, qui sera plus court, et donc on aura plus de temps pour des applications. J'aimerais juste terminer en lisant un poème. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce poème de Charles Studd, « City Studd ». Il était anglais, il vivait au 19e siècle. Il venait d'une famille très riche, extrêmement riche, prestigieuse. Il a étudié à Cambridge. Sa famille était champion de cricket. Alors, j'ai toujours pas très bien compris ce qu'était le cricket, mais c'est un sport apprécié par d'autres personnes dans le monde. Et il jouait dans l'équipe nationale d'Angleterre. Il était un des meilleurs joueurs de l'époque. C'était le Eden Hazard du cricket de l'époque. Il était reconnu par tous. Il est devenu chrétien quand il avait 18 ans. Il avait un cœur pour les progrès de l'Évangile. Il s'est demandé, mais comment est-ce que je peux utiliser ma vie au mieux pour que l'Évangile progresse? Et pour lui, ça a ressemblé à... C'était la décision qu'il a prise de tout quitter et de partir pour la Chine, pour être missionnaire. Et puis en Afrique, pour passer le reste de sa vie à parler de Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas. Et il a écrit ce poème qui résume bien l'idée centrale du texte qu'on a vu ensemble. Je vais vous le lire. Et on mettra dans le mail qu'on enverra plus tard aujourd'hui une vidéo où ce poème est raconté avec le texte aussi que vous pourrez lire et méditer pour vous-même. Je dois vous parler de ce court refrain. Dans ma vie chargée, il fit son chemin. Une conviction en est ainsi née et ne m'a depuis plus jamais quitté. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, une seulement. Les heures s'en vont, chassées par le vent. Puis viendra le jour glorieux du Seigneur. Je devrais tenir face à sa grandeur. Une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, cette douce voix, me supplie de faire de bien meilleurs choix et d'abandonner mes buts orgueilleux pour me soumettre au plan parfait de Dieu. Une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, de brèves années, pleine de fardeaux, remplie d'anxiété. Et cette question qu'il faut se poser, vivre pour moi-même ou sa volonté. Une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Et la dernière strophe, une seule vie, juste une ici-bas, c'est ta volonté qui s'accomplira. Et quand prendra fin la dernière scène, je pourrai redire, ça valait la peine. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Et sur mon lit de mort, je serai dans la joie si le feu de ma vie a pu brûler pour toi. Prions pour terminer. Aide-nous, notre Dieu, à réaliser que la vie passe vite et que seul restera ce qui est fait pour Christ. Aide-nous, notre Dieu, à voir que Jésus est plus précieux que tout. Aide-nous à vivre pour lui de toutes nos forces. Donne-nous la sagesse, notre Dieu, pour voir à quoi ça ressemble pour chacun de nous dans nos circonstances particulières et différentes. Aide-nous à ce qu'on puisse s'encourager les uns les autres dans l'Église à réfléchir à cela. On te prie, notre Dieu, que tu te serves de nos vies pour que l'Évangile progresse dans le monde, pour que l'Évangile soit proclamé, pour que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus puissent en entendre parler et se confier en lui pour le pardon de leurs péchés. On prie ces choses dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je vais laisser la place à Jonathan.